Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Hop, 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 hop ! Bonjour tout le monde !
Bonjour !
Bien le bonjour à vous !
Eh bien, nous voici de nouveau tous les trois réunis pour cette 12e émission, la dernière avant les vacances d'été. Mais je vais laisser la parole à Olivier, qui va nous présenter notre première nouvelle.
Une nouvelle de Jeanne Desaubry. Jeanne Desaubry et Max Aubion sont des noms que vous avez déjà entendus dans notre bouche. Nous vous en avons souvent parlé, de ces auteurs, éditeurs, créateurs des éditions Numérique Ska, auxquels notre ami Jean-Jacques Boulet, ici présent, prête sa voix, ainsi qu'Evelyne, si je ne me trompe pas. Nous vous avons déjà lu certaines de leurs nouvelles parues dans Les Refusés. Eh bien, ces multi-activistes de l'écriture sont également des cinéastes. Jeanne et Max viennent de présenter leur court-métrage « Poule » au festival « Parole à la plage » et je rajoute « Sous la pluie » qui vient de se tenir au Havre. L'affiche est magnifique. Deux visages nous fixent, l'un rouge, l'autre noir, et nous invitent à les rejoindre dans un univers que l'on devine glaçant. « Poule » de Jeanne Desaubry et Max Aubion, produit par les films du Gabelou. J'ai hâte de les découvrir. Bon. En attendant, nous allons vous lire « Seuls les livres savent » de Jeanne Desaubry.
Jonathan est accoudé à sa fenêtre, son livre à la main.
Un verger d'olivier, une terre rouge, sèche. Si sèche. Son père l'appelait l'oliveraie de Mélie, parce que les arbres avaient été plantés par Mamie Mélie à sa naissance à lui, des arbres vieux de plus d'un demi-siècle. Ils donnaient si bien autrefois. Le pressoir a cessé de fonctionner, voici maintenant bien des années.
Quant aux tuyaux d'irrigation, ma foi, ils avaient tout bonnement disparu. Enfouis sous la poussière, volés par des malheureux de ces hordes qui allaient à pied à la recherche de pitances, d'eau, de matériaux à échanger contre l'une ou l'autre de ces rares denrées. Qu'on ne voit plus à présent, mais il faut dire qu'il n'y a plus grand-chose à glaner dans l'arrière-pays.
Le mât dans lequel vit Jonathan est bien grand pour lui, maintenant qu'il s'y trouve seul. Son père est mort, lentement, comme une bougie arrivée à sa fin. Une fois les cachés pour le traitement de sa maladie chronique épuisée. Quant à son frère aîné, le grand, le solide Évariste, parti un soir en se faufilant dans l'ombre des arbres morts vers la ville, il n'est jamais revenu. Jonathan se doute qu'il n'a pas survécu, sinon il ne l'aurait jamais laissé seul si longtemps. Bien sûr, il a peut-être retrouvé Virginie. Elle lui manquait tant. Mais plus rien n'est sûr dorénavant. Les gens disparaissent sur les chemins, dans les faubourgs en ruine.
L'épidémie est venue, désorganisant profondément la société. Et ce sont les chiens, les méchants qui ont survécu. Parce qu'ils n'hésitaient pas à voler les plus faibles, à tuer pour un médicament ou un fruit flétri.
Après, les virus qui se sont succédés avec la force et la régularité de tsunamis, ce fut la sécheresse. Les fous sont alors apparus, clamant la fin du monde, les sept plaies d'Égypte incitant à se repentir. Puis, ils ont disparu, à leur tour, malades, affamés, supprimés peut-être. Malgré des bouffées sporadiques de fureur, le silence règne dorénavant en maître. Il est tombé sur le pays comme un couvercle étouffant.
De temps à autre, il entend encore des moteurs, des coups de feu en rafale. Aperçoit au loin, dans l'échancrure des collines, quelques lueurs de brasier. Mais les grands incendies sont terminés. Et c'est preuve que, quelque part, les hommes sont encore en vie, sont de moins en moins fréquentes. Il y a de nombreuses semaines qu'un calme absolu écrase les anciennes oliveraies et que les chemins de terre rouge n'ont offert aucun panache de poussière indiquant l'arrivée d'un visiteur. Depuis peu, les oiseaux semblent être de retour. Cela a allégé le cœur de Jonathan.
Le jeune homme maintient une routine. Le matin, avant la canicule, aller cueillir de rares herbes à l'ombre du mur nord, y pisser régulièrement sans gâcher une seule goutte pour tenter de compenser l'absence de l'eau du ciel, aller puiser la boue du puits pour la laisser dans des filtres jusqu'au lendemain, courir pour rire après le coq, caresser la poule et gober l'œuf qu'elle offre parcimonieusement de temps à autre, vérifier les fermetures avant la nuit, compter ses réserves, ne jamais faire de lumière ni de bruit, laisser les alentours dépérir pour laisser croire à l'abandon des bâtiments, les branches en travers de l'accès pour dissuader une venue non souhaitée.
Il n'a que la dissuasion comme arme.
Et il attend.
Un jour, son frère rentrera. Un jour, peut-être, il pleuvra. Et la terre renaîtra, forcément. Un jour, ses cousins, ses amis d'autrefois, les gens du village réapparaîtront. Il chantera, discutera, plaisantera, se disputera encore, sourira à Angèle qui sera de nouveau là, jolie, rieuse, désirable.
Son père, conscient de sa maladie, avait trié, rangé, ordonné tous les outils dans la grange ainsi que les papiers. Il avait laissé un bureau dans un ordre impeccable, jusqu'à la survenue des pillards qui ont emporté les meubles, l'ordinateur muet depuis longtemps, du fait de l'absence d'électricité, mais aussi les tapis, le moindre objet de valeur, comme dans le reste de la maison d'ailleurs. Avant cette mise à sac, Jonathan avait aimé s'installer dans la pièce, pour y retrouver l'odeur paternelle et manipuler les objets de sa vie. La pipe, les stylos, les dossiers si bien classés.
Si les bibliothèques ont été vidées de leur contenu, les livres jetés au sol, le bois emporté, le feu n'a pas été mis comme dans bien des mâts isolés.
Jonathan a attendu le départ des pilleurs pour sortir de sa cachette dans le placard à double fond imaginé précisément pour ce genre d'éventualité par un père bricoleur et prévoyant. Il a déblayé partout les débris de ce qui n'avait pas été volé, s'est efforcé de sauver, réparer et réaménager une existence avec le peu qui semblait récupérable. Dans le bureau, devant l'étendue de la marée des papiers, piétiné, il s'est, pour la première fois, intéressé aux livres.
Il a d'abord trié les romans d'un côté, les ouvrages techniques, les revues, les encyclopédies de l'autre. Il a trouvé matière à réfléchir à son avenir dans les marque-pages et les notes de marge. La filtration de l'eau, la permaculture, l'élevage ovin, la fabrication de flèches, l'herboristerie. Son père avait réfléchi depuis longtemps à ce qui les attendait.
Jonathan, maigre comme un chien affamé, a donc couru les collines à la recherche de vestiges de culture et a commencé à semer des graines dans des pots rangés à l'ombre, en priant pour que le ciel ne devienne pas plus brûlant. Il a pleuré d'émotion devant les premières pousses. Il a consolidé la citerne, espérant un orage, creusé des latrines, laisser sa poule couver ses œufs et à protéger ses poussins comme de l'or. Comme il grandissait et forcissait, les rudes travaux ne l'ont pas rebuté, et il a creusé une cave au-delà du verger, dissimulée par une lourde pierre. Ses maigres provisions y sont à l'abri et au frais, du moins l'espère-t-il.
Maintenant, quand ses travaux lui laissent un peu de temps le soir, avant la disparition des derniers rayons du soleil, il va dans le bureau de son père, et manipule les piles instables de livres poussiéreux. Il a commencé à choisir des lectures un peu au hasard, privilégiant des jaquettes colorées. Puis, il a découvert la poésie, l'histoire, et revenu à ses amours enfantines pour les contes et la mythologie, avant de trouver ce volume, souvent lu par son père, s'il en juge par son usure. Il l'a lu en deux longues soirées d'été, il revient sans cesse maintenant, fasciné par ce récit immobile d'une vie emplie d'attentes qui lui évoque la sienne. Un passage a été souligné plusieurs fois. Jonathan ne le comprend pas très bien, mais parfois il le murmure, tente de ressusciter la voix de son père, de deviner le sens profond qu'il y trouvait.
Courage, mon Drogo. C'est là ta dernière carte. Va en soldat, à la rencontre de la mort. Et que au moins ton existence fourvoyée finisse bien. Venge-toi maintenant du sort. Nul ne chantera tes louanges. Nul ne t'appellera héros ou quelque chose de semblable. Mais justement pour cela, ça vaut la peine. Franchis d'un pied ferme la limite de l'ombre, droit comme une parade, et souris même si tu y parviens.
Le jeune homme se pose dans l'encoignure de sa fenêtre préférée, en façade. Elle donne la meilleure vue sur l'ouest par lequel arrive le chemin et reçoit les derniers rayons du couchant. Son regard se porte sans cesse de la page en cours au long méandre lointain du sentier.
Un jour, la poussière rouge s'élèvera. Tout au bout de la perspective, Évariste apparaîtra. Jonathan pourra poser son livre et aller au-devant de son frère. Son attente sera finie.
Mais en attendant, il faudrait protéger la couverture du livre qui commence à se déchirer. Ah, il répugne à la recouvrir car il aime les capitales dorées du nom de l'auteur. Dino Buzzati et du titre « Le désert des Tartares ». Mais voici que l'obscurité est à présent trop profonde pour lire. Alors, Jonathan range son livre, tire les volets pour protéger sa bibliothèque. Après sa rude journée, il ne tarde pas à s'endormir dans sa chambre d'enfant.
L'ombre
s'avance sous les squelettes des oliviers.
Thank you.
C'est Remember Albi, du regretté Didier Lockwood, que nous avons choisi pour accompagner la nouvelle que vous venez d'entendre.
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Un texte plus léger maintenant, avec la corvée de Gabi, imaginée par Jean-Claude Épice.
Pourquoi c'est toujours moi qui hérite des corvées ? T'avais qu'à pas être bourré, qui m'a dit le patron. Et il me fait marrer, lui. S'il croit qu'on s'amuse beaucoup dans Saturne, alors là, il se fourre le doigt dans l'œil. Alors, un petit coup de jaja de temps en temps, hein, histoire d'égayer l'éternité, ça peut pas faire de mal, non ? Tu parles d'une corvée. Comment je vais annoncer ça, moi ? Encore un coup à passer pour un fada, à prendre des coups de pied au cul, à me faire virer comme un malpropre. Bon, allez, je respire un grand coup. Je fais entrer l'oxygène dans mon cerveau. J'inspire profondément et je détends mes muscles un par un. Et on a suivi des cours de sophrologie avec les copains et c'est le patron qui a payé en plus. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver l'adresse. Où que j'ai mis le petit bout de papier que le patron m'a donné. Zut, c'est sûr que j'aurais pas dû boire autant. Déjà, j'aurais pas eu la corvée, tiens. Au moins, j'aurais trouvé ce foutu papelard. Mais bon Dieu, où qu'il est ?
Après de vaines recherches, Gabi décide de faire une pause, de s'asseoir sur un muret et de se rouler une cigarette. Il ouvre son paquet de tabac et, oh miracle, il retrouve l'adresse qu'il avait mise à l'intérieur, en se disant que c'était l'endroit le plus sûr pour la retrouver.
« Bon, plus moyen de reculer maintenant. Allez, va falloir que j'y aille. Oh, comment je vais lui annoncer ça ?»
Gabi déambule péniblement de chaque côté de la rue pour trouver la bonne adresse, la bonne maison.
Alors le numéro 17, il est où ? Il n'y a même pas de numéro sur les habitations, mais je ne sais même pas si on peut appeler ça des maisons d'ailleurs. Ils doivent pas être bien riches ces gens-là. Ils auraient pu mieux les choisir, le patron. Tiens, tu parles d'un représentant ou d'une image de marque ? Non. Comme vecteur publicitaire, c'est pas terrible, enfin. C'est lui le boss, c'est lui qui commande. Et elle, Gabi, ben, il a obéi. Tiens, je vais demander au commerçant arabe. Il doit sûrement tout savoir et connaître tout le monde. Waouh ! Il y a un monde là-dedans. Oh non, je vais perdre un temps fou. Et vas-y que je te discute, vas-y que je te fais des salam alek, des courbettes. Ça, ils sont forts pour ça, et il faut reconnaître. Après la Maison Blanche, là où il y a un atelier de menuiserie, qui m'a dit. Super sympa, en fait, le mec. Et son échoppe, vachement bien garni. Je me serais bien arrêté pour prendre une bière. Mais bon, allez, le devoir avant tout, Gabi. Ça y est, j'y suis. Pas de sonnette, évidemment, pas de nom, pas de heurtoir sur la porte. Ah bah, ça commence bien. Je toque, et j'attends, rien. Et pas de bruit à l'intérieur. Peut-être qu'il n'y a personne. Ça m'arrangerait bien. Je rentre, je dis au patron qu'il n'y avait personne, et il enverra quelqu'un d'autre à ma place pour cette corvée-là. Je retoque, allez. Toque, un peu plus fort, mais pas trop, hein. Enfin... par acquis de conscience. Toujours rien. Ah, chouette. Je m'apprête à partir quand j'entends une petite voix.
Youssef, t'as pas entendu frapper ?
Mais non ! T'entends des voix, ma pauvre fille.
Va tout de même voir, s'il te plaît. On ne sait jamais.
Et merde, j'ai perdu. Oh, va falloir que je lui dise. Ça y est, la porte s'ouvre, un grand gaillard apparaît, barbu, la tignasse pas coiffée. Ouh, mon Dieu, qu'il est costaud, c'est pas bon pour moi, ça.
Tiens ! Salut, Gabi. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as encore perdu ton chemin ?
Bonjour, Youssouf.
Youssef, moi c'est Youssef.
Bizarre, sur ma fiche de renseignement, c'est bien noté Youssouf. Ouais. Faut dire que le copain qui dirige les renseignements généraux, là-haut, il picole au moins autant que moi.
Qui c'est, Youssef ?
Oh, c'est rien. C'est Gabi, tu sais, le fada.
Fais-le entrer et demande-lui s'il a faim.
Et puis quoi encore ? Je me crève pas le cul à travailler le bois 15 heures par jour pour nourrir tous les fadas du bled.
Allez, sois généreux, demande-lui.
Bon, hé, Gabi, t'as mangé ? Tu veux rentrer ? Il y a la Marie qui t'invite.
Non, je voulais seulement apporter un message à Marie.
Ah, voilà que t'es facteur maintenant. Ils doivent pas manquer de personnel à la poste. Pourtant, pourquoi t'ont-ils embauché ?
Bon alors, il rentre ?
Non, il dit qu'il a une lettre pour toi.
Pas une lettre, un message.
C'est une lettre de qui ?
C'est pas une lettre, c'est un message.
Ben, un message de qui ?
T'as entendu, là, Marie ? Tu veux vraiment pas entrer pour lui expliquer parce que moi, j'aime pas trop faire le tampon.
Ah, c'est ce que je craignais de pire, lui annoncer en présence de Youssef. Mais pourquoi que j'ai autant bu hier ? J'aurais pas dû danser tout nu devant les autres en chantant des chansons paillardes, hein ? Et ça, le patron, il a pas aimé, hein. Cette corvée, ça te remettra les pieds sur terre, qu'il m'a dit. Bon, j'entre en me baissant, car le plafond est bas. Il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est vrai que pour un 25 mars, le soleil est pas très généreux, mais Marie m'accueille avec le sourire. Le sourire dans la pièce qui sert de cuisine en me donnant l'accolade.
Tu dois avoir faim.
Oh, qu'elle est belle, elle est radieuse. Et son sourire, il y a de quoi craquer. Elle parle d'une voix toute douce. Elle a l'air gentille. On lui donnera le bon Dieu sans confession, comme on dit. Ah, c'est vraiment un vénard, ce Youssef. Ça y est, elle pose une assiette supplémentaire sur la table, me tend un verre de vin. Marie remplit mon assiette. Bah, comment refuser ? C'est que je devrais pas dans le service, mais bon, je vais avoir besoin de courage quand même.
Qu'est-ce qu'il faut pas voir ? Il vient, et que j'ai un message, et que je me mets assis, et que je mange, et que je bois. Et moi, faut que je retourne au boulot pour payer la pitance de monsieur. T'exagères, n'est-ce pas, Gabi ?
Enfin, mon chéri ! On peut quand même offrir l'hospitalité à son prochain. Tu deviens égoïste et aigri, Youssef.
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? On est en plein rêve, là, hein ? Bon, cette lettre, tu la sors ou quoi ?
Ben, c'est pas une lettre. J'ai un message oral à vous transmettre, Marie.
Si ça me concerne pas, je vais à l'atelier, hein. J'ai du travail. Si t'as besoin de moi, Marie, tu m'appelles.
J'osais trop l'espérer qu'il s'en aille, et au loin, ce sera sûrement moins dangereux pour moi et je pourrai tranquillement, sereinement, tout dire à Marie.
Mais non, reste Youssef, j'ai rien à cacher.
Oh.
Peut-être que ça nous concerne tous les deux.
Bon, bah vas-y, crache-la ta Valda.
Il me fait peur, je sais pas si je vais oser. Il a des mains aussi larges que des battoirs à tapis. Oh, les miennes deviennent moites, je transpire à grosses gouttes, tout mon corps est trempé. Je tremble de tous les côtés comme si j'étais possédé. Allez, courage, Gabi. Je me lève, je me concentre, j'inspire un grand coup, j'écarte les bras. Allez, ma toche s'ouvre, on dirait que des ailes vont me pousser. Je joins mes mains devant ma poitrine, je ferme les yeux et...
Et replie tes ailes, Gabi. Tu vas t'envoler.
Arrête de te moquer. Laisse-le parler, enfin.
Cette femme est une sainte. Elle ne mérite pas d'être avec un ours pareil. Bon, après quelques secondes de silence, je me lance. Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez et vous enfanterez un fils et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur. J'ai pas eu le temps de finir. Youssef s'est levé, s'est servi de ses battoirs, et les deux, il m'a envoyé un crochet du droit en pleine gueule, suivi d'un uppercut au foie. Il a enchaîné quelques swings droite, gauche, un vrai boxeur, hein. Et moi, un vrai punching ball. Après, je sais plus, ma vue s'est troublée, j'ai vu des anges, des étoiles, des nuages, des enfants qui couraient, qui riaient. Je buvais une bière, quand même tranquille. J'étais chez moi à la maison, entouré de mes potes. On jouait à la pétanque. J'étais au paradis, quoi. Lorsque j'ai retrouvé mes esprits, j'ai réussi à ouvrir le seul œil valide qui me restait. J'ai vu Marie et Youssef faire de grands gestes. Oh, ils se disputaient à cause de moi.
Tu sais bien qu'il n'est pas tout à fait sain d'esprit. Ça fait des années qu'on essaie d'avoir un enfant. C'est pas la venue de Gabi qui va changer les choses. Enfin, mon Youssef, t'as vu ce que t'as fait à ce pauvre garçon? T'as vu dans quel état tu l'as mis?
Excuse-moi, Marie. J'aurais pas dû m'emporter comme ça, mais comprends-moi. C'est insultant, quand même. Venir sous mon propre toit pour me dire que tu étais enceinte de je ne sais qui, de je ne sais quoi. Et puis Jésus, c'est pas un prénom, ça, à l'école. Ils se moqueraient tous de lui. Jésus, Jésus, je sais plus. Ah, la bonne blague. Et fils du Très-Haut, comme surnom, t'avoueras qu'il n'y a pas mieux. Il serait mal parti dans la vie avec un prénom et un surnom pareil. T'imagines un peu la vie pleine d'embûches qu'il aurait? Tiens, il se réveille. Oh, la gueule! C'est plus des cocards, c'est des auréoles que t'as autour des yeux. Allez, excuse-moi, Gabi. J'ai peut-être cogné un peu trop fort, mais t'as exagéré quand même. C'est de ta faute. Lève-toi et marche, qu'on voit si t'as retrouvé ton équilibre.
Viens finir de manger, Gabi. Et tiens, prends un autre verre de vin.
J'ai pas pu. J'ai refusé et je les ai quittés en titubant et en maudissant le patron et ses corvées à la con. Oh.
Après avoir accompagné Gabi à la porte, tout en s'excusant de nouveau, Youssef retourne à la cuisine et rejoint Marie. Elle est assise, mais semble ailleurs. Son regard se trouble, son teint est livide.
Qu'est-ce que t'as là, Marie? T'es toute blanche. T'es toute palote.
Marie n'a pas le temps de répondre. Elle se met à courir vers les toilettes et vomit tout l'intérieur de son corps. Youssef, inquiet, veut lui venir en aide.
Qu'est-ce que je peux faire, mon amour?
Après de longues minutes qui semblent interminables à Youssef, Marie sort des toilettes, péniblement. Le regard vitreux, elle se tient le ventre. Elle se met assise, regarde son mari et lui dit « Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que t'ailles chez l'épicier arabe m'acheter des fraises. »
Thank you.
Après Child is Born, interprété par les petits loups du jazz, c'est l'heure de notre rubrique à vrac. Alors commençons. Commençons par la sortie d'un livre publié par les éditions Kairos. La place de nos amours est blanche de ses pavés. Comme nous avons la chance d'avoir son auteur dans le studio, nous allons essayer d'en savoir un peu plus. Alors Olivier...
Excuse-moi, c'est Youssef.
Ah, c'est Youssef. Olivier Thirion, il y a un an, tu as publié un recueil de poésie et aujourd'hui, tu publies ce recueil de nouvelles. Bah, comment fais-tu pour être aussi productif ?
Bon, bah déjà, je suis insomniaque.
Ah, ça facilite, effectivement.
C'est un recueil de nouvelles parfois anciennes, que j'ai voulu réunir, dont la plupart des nouvelles qui sont proposées là sont parues dans Les Refusés, entre autres.
Oui.
Donc, ce ne sont pas des textes que j'ai écrits en un an depuis le dernier volume dont tu parles.
D'accord. Alors, maintenant que tu as fait un recueil de poésie, un recueil de nouvelles, est-ce que tu aurais par hasard envie d'écrire un roman ?
L'exercice est complètement différent. C'est un travail sur le long terme. J'y suis. J'ai quelque chose qui me suit depuis plusieurs années, que j'enrichis au fur et à mesure. Peut-être que ça débouchera sur un roman un jour.
D'accord, d'accord.
Peux-tu nous dire quel est le fil rouge autour duquel s'articulent ces 24 nouvelles ?
La ville. Ma ville. Comment on en part, comment on y arrive. Certaines parlent de la fuite intérieure, la fuite dans l'alcool, dans la drogue, la fuite devant la maladie, le fantasme de la mer, le fantasme de la campagne, tout ça pour finalement revenir à la ville.
La place de nos amours est blanche de ses pavés. Un titre particulièrement poétique, mais pour toi, qu'évoque-t-il ?
Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'été, quand on arrive près de la place Stanislas, il y a comme une rumeur qui monte. On a l'impression d'arriver sur un endroit qui est une plage.
Oui, c'est vrai, oui.
Et on pourrait presque entendre le bruit de la mer. Et les pavés, qui sont très clairs, se reflètent les rares jours de soleil. Et donnent cette couleur blanche dont je parle là. Quand je parle de la place de nos amours, c'est bien sûr la place Stanislas. Quant à mes amours, vous me permettrez de les garder pour moi.
Merci Olivier. Donc, je vous redis le titre. La place de nos amours est blanche de ses pavés, aux éditions Kairos.
Merci beaucoup.
Après cette rubrique littéraire, je voudrais vous conseiller une visite à Gauvillet, où, comme tous les ans, Thème, l'espace d'art contemporain, vous propose une exposition tous les dimanches après-midi jusqu'à fin septembre qui s'articule autour du thème « Et pourquoi pas ?».
Eh bien, à présent, moi, je vais vous parler d'un concours de nouvelles qui s'appelle le prix Moselli. Le prix Moselli, c'est quelque chose qui existe depuis 75 ans, et ce concours de nouvelles. Et donc, vous pouvez y participer si vous écrivez des nouvelles. Les conditions, c'est qu'il faut que ça parle, que ça évoque la Lorraine. Il ne faut pas avoir été primé ni être présenté à un autre concours. Et puis, on est obligé cette année, comme c'est les 75 ans du prix Moselli, de glisser le chiffre 75 à un moment ou à un autre. Voilà, la longueur, c'est entre 15 000 et 23 000 caractères, espace compris. Et puis donc, vous avez jusqu'au lundi 9 septembre 2024 pour envoyer ça à Corinne Florentin, 2 rue du commandant Huc, 54 200 à Toul. Voilà. Eh bien, bonne chance à tous.
Nous vous donnons rendez-vous les 13, 14 et 15 septembre au Livre sur la Place, au stand des Refusés, pour découvrir notre 25e numéro de la revue, ainsi que le 22 septembre au Salon du Livre de Senones dans les Vosges. Je voudrais, avant de vous souhaiter de bonnes vacances, vous citer un proverbe juif dont je vous laisse méditer la morale. quand un fou jette une pierre dans un puits, aucun des 100 sages qui l'entourent ne peuvent la rattraper. Méditez ça, passez de bonnes vacances, au revoir.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir.